Moi, je suis très contente pour plein de raisons d'accueillir Caroline Husquin ici. Caroline Husquin est maître de conférences d'histoire romaine à l'université de Lille. Et elle m'a rappelé que ce n'était pas la première fois qu'elle venait à Poitiers, mais je ne me souvenais pas que c'était quand même la troisième. Donc voilà, il y a de la fidélité à sa venue. Et ce qu'elle nous propose aujourd'hui, puisque c'était l'état d'esprit de ce cycle, hein, c'était de diversifier les disciplines et les regards portés sur la réparation. Et je trouvais opportun, juste au moment où le livre de Caroline est sorti, hein, je vous le conseille, j'ai pas d'atout, sinon le grand plaisir à l'avoir parcouru. Caroline travaille particulièrement sur le handicap, même si elle va sans doute en introduction dire les choses autrement avec d'autres mots dans un contexte qui est celui de l'Antiquité. Et l'objet de sa conférence aujourd'hui porte sur les prothèses, toutes les prothèses. Et donc, je ne dévoilerai pas, même capillaire, donc pas forcément celles auxquelles on s'attend ordinairement et pas seulement celles qui suppléent un manque, mais manque de cheveux, c'est aussi un souci. Donc voilà, je suis ravie qu'elle ait accepté de venir ce soir.
Merci Lydie. Alors bonsoir à tous. Effectivement, c'est, tu le disais, la troisième fois que je viens à Poitiers et c'est toujours un très très grand plaisir. Je parle. C'est dans le micro, un petit peu plus. Ouais. Donc c'est toujours un très très grand plaisir de venir à Poitiers. J'ai toujours beaucoup de joie à revenir. Alors avant de vous emmener vraiment dans l'Antiquité, je vais faire un plongeon plutôt progressif. On va partir du 21e siècle et on va remonter progressivement pour que la transition avec les conférences précédentes ne soit pas trop brutale. Alors on va partir d'un petit exemple extrêmement contemporain pour parler des prothèses. En 2015, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, IAAF, a pris la décision d'interdire aux porteurs de prothèses de courir avec les valides lors des championnats du monde d'athlétisme. En fait, cette décision mettait un terme à ce qu'on a appelé l'affaire Pistorius. Hein, donc, vous savez, cet athlète amputé des deux jambes et vainqueur de nombreuses compétitions paralympiques, qui souhaitait courir avec les valides, ce qui lui avait été dans un premier temps permis. Hein, on l'avait autorisé à courir avec les valides lors des mondiaux de 2011 et notamment aux JO de 2012 à Londres, où il s'était d'ailleurs hissé en demi-finale du 400 mètres. Et ce, en dépit d'une étude allemande arguant que ses lames, hein, donc vous voyez, c'est le dispositif de prothèse qu'il porte là sur la photo, et donc une étude allemande concluait que ses lames lui procuraient un certain avantage par rapport aux autres coureurs, et donc aux coureurs valides. Cet exemple, il est, à mon sens, tout particulièrement intéressant parce qu'il montre combien, au XXIe siècle, la frontière entre corps réparé et corps augmenté est finalement mince. Pour autant, ces thèmes ne sont pas nouveaux, et donc on va maintenant plonger dans l'Antiquité, puisque les prothèses, hein, vous le savez, existent depuis fort longtemps, et l'idée, si ce n'est la possibilité du corps augmenté, tout autant. Hein. Elle remonte à tout aussi longtemps. Si on pense par exemple, pour reprendre un exemple de la mythologie, à Icare et Dédale, dont les velléités aériennes sont rapportées notamment par Pline, hein, dans les Métamorphoses. Vous savez, ce sont ces deux individus qui ont tenté de s'échapper du labyrinthe à l'aide par la voie aérienne, hein, donc à l'aide d'ailes qu'ils avaient fixées à l'aide de la cire. Hein, et vous savez, vous connaissez bien cette histoire. L'un des deux s'est trop approché du soleil et ses ailes se sont détachées parce que la cire a fondu. Donc c'est un des premiers exemples de corps augmentés que l'on peut relever dans la mythologie et dans la littérature. C'est donc du corps artificiel, du corps réparé dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Et si ce n'est de ses véritables origines, c'est tout de même de son passé lointain que je souhaite traiter et de ses liens avec le corps naturel, mais aussi avec la construction sociale que peut représenter le corps et la volonté, en le réparant, de le rendre fonctionnel, mais aussi de l'esthétiser, hein, puisque c'est quand même un des mots-clés de la thématique qu'on m'a demandé de traiter. Donc de l'esthétiser dans le sens de lui rendre l'aspect conforme à la norme attendue dans une société donnée. Et donc ici, en l'occurrence, la société, les sociétés grecques et romaines. Puisque ça ne vous aura pas échappé, j'ai modifié un tout petit peu le titre de mon intervention. Je me proposais à l'origine de traiter des prothèses dans le monde romain. Je vais traiter en vérité les prothèses dans le monde grec et dans le monde romain. Donc j'ai étendu un tout petit peu mon propos. Enfin, le mot prothèse, en français, il est dérivé du grec prosthésis. Il est dérivé donc du grec prosthésis, qui veut dire poser sur, placer devant, et il est employé donc en latin sous sa forme de prosthésis, d'addition. En latin, ça signifie addition, et ça désigne notamment l'addition d'une lettre au commencement d'un mot. Et donc, rien à voir finalement avec le sens que nous attribuons aujourd'hui au mot prothèse. Ce terme de prothèse, prosthésis dans l'Antiquité, il n'a absolument pas le même sens, pas le sens que nous lui conférons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne désigne pas un dispositif artificiel destiné à remplacer un élément du corps humain qui a disparu, alors pour des raisons diverses, en raison d'une blessure, d'une maladie, ou qui est absent de façon congénitale. Alors cette absence d'un mot précis pour désigner ce type de dispositif doit nous interroger. Les anciens n'employaient pas de termes spécifiques pour désigner ce que nous, on appelle aujourd'hui une prothèse, et qui donc est un dispositif qui vise à remplacer, à suppléer un membre absent. Alors, les sources, tant littéraires qu'archéologiques, nous montrent bien que l'absence de mots ne veut pas dire que les anciens ne recouraient pas à la prothèse. Les anciens ont recours à des prothèses, simplement ils ne les ont pas désignées sous une catégorie, sous un terme unifié, comme c'est le cas dans nos sociétés. Alors, le lexique pour qualifier ces instruments existe néanmoins bel et bien, mais plutôt qu'un terme spécifique, eh bien, les Grecs et les Romains ont préféré des expressions de composition qui désignaient finalement le membre touché et le matériau utilisé pour créer un artifice de remplacement. Donc les anciens ne parlent pas de prothèse, mais ils parlent plus volontiers d'une main droite en fer, comme c'est le cas chez Pline l'Ancien, d'une jambe de bois, comme on peut le voir chez Martial, ou bien encore de pied de bois chez Lucien, ou d'un pied de bois chez Hérodote. Alors pourquoi cet écart, pourquoi les anciens n'ont pas utilisé un mot spécifique pour qualifier ces dispositifs ? La réponse, elle est évidemment complexe, et ce soir, je ne vous apporterai pas une réponse ferme et définitive. On peut d'ailleurs compléter cette question de l'écart pour préciser un petit peu les choses. Est-ce que l'usage de prothèses était-il si rare qu'on n'a pas éprouvé le besoin de donner un nom particulier à ces objets ? Ou ces appellations de composition peuvent-elles traduire finalement une plus grande appropriation du membre en question ? Voilà, la question est posée et je n'ai pas nécessairement de réponse ferme et définitive à vous apporter là-dessus, si ce n'est quelques hypothèses de réflexion et de travail. Donc les raisons de la perte d'un membre, elles sont extrêmement diverses et peuvent beaucoup varier. Et les porteurs de prothèses n'ont peut-être pas été perçus comme formant un groupe distinct nécessitant une appellation commune. Alors c'est bien gentil, si je puis dire, de façon un petit peu familière, de vous asséner ça de façon aussi tranchante. Mais je pense que pour comprendre cette assertion, il faut que je fasse peut-être un point de vocabulaire sur le handicap dans l'Antiquité. Puisque, à mon sens, on ne peut pas comprendre ce que je viens de dire si on n'appréhende pas la façon dont les anciens percevaient le handicap et ce que moi j'appelle plutôt l'atteinte physique. Pourquoi je parle d'atteinte physique et pas de handicap ? Parce que dans l'Antiquité, ce que nous désignons par handicap, en réalité, n'existe pas. Alors, vous allez me dire, si, l'atteinte physique existe, ça existe. L'atteinte physique existe, les blessures existent, les problèmes corporels existent, Mais ce que nous mettons derrière le mot handicap en termes de perception, de représentation, de construction sociale, n'est pas du tout pareil et n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire que le handicap n'est pas perçu comme étant assimilable à une catégorie de la population qui partagerait une caractéristique commune. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on parle de handicapés de façon globale ou de personnes en situation de handicap, et on range dans cette catégorie un certain nombre de personnes qui souffrent de troubles physiques ou psychiques. Ça peut être de la cécité, ça peut être une incapacité à marcher, ça peut être des problèmes de mobilité. On a bien conscience que tous ces problèmes sont des problèmes différents, mais on range toutes ces personnes dans une même catégorie, qui est la catégorie des personnes en situation de handicap. Les anciens ne procèdent absolument pas de cette manière. Pour un ancien, pour un romain, une personne qui boite, une personne qui est aveugle ou une personne qui ne peut pas marcher ne partage absolument rien en commun. On ne peut pas les ranger dans une catégorie sociale bien particulière avec une caractéristique commune. C'est donc pour ça que je vous soumets ici l'hypothèse de travail que peut-être les porteurs de prothèses n'ont pas été perçus comme formant un groupe distinct, nécessitant donc une appellation commune. Et c'est une des hypothèses qui peut justifier qu'on n'ait pas de mot unique qualifiant ces dispositifs. Donc afin d'étudier le corps appareillé des anciens, on verra d'abord, donc je vous propose un cheminement en trois temps, on verra d'abord les modalités de la perte, puis de la restauration d'un élément corporel, avant d'envisager des aspects plus concrets concernant l'utilisation et la fabrication des prothèses antiques. Pourquoi porter une prothèse ? Par qui sont-elles fabriquées ? Quelle est l'utilité de la prothèse ? Alors, certaines questions ici que j'énumère un petit peu de façon tranchante peuvent vous paraître naïves. On verra qu'elles ne le sont pas tant que ça pour les sociétés anciennes. Et enfin, on terminera en nous penchant sur ce fameux œil du spectateur, tel qu'il a été formulé par Robert Garland dans un ouvrage de 1995, cet œil du spectateur qui juge l'autre et qui est donc juge de l'image et de la considération qui est prêtée au porteur de prothèse. Et donc, dans un premier temps, je vous propose d'envisager les modalités de la perte et de la restauration de l'élément corporel. Et donc, on va voir tout d'abord les modalités de la perte d'un membre. Alors, qui sont les porteurs de prothèses ? La catégorie des porteurs de prothèses est assez difficile à circonscrire dans l'Antiquité, tant les paramètres à prendre en considération sont finalement assez nombreux. Là encore, la question peut vous paraître naïve. Qui porte une prothèse ? Quelqu'un qui a perdu un membre. Oui, certes, mais ça n'est pas aussi facile, puisque les conditions de perte d'un membre dans l'Antiquité peuvent parfois être un petit peu particulières, vous allez le voir. Alors, tout individu privé d'un membre n'a pas nécessairement porté une prothèse. Les raisons pour lesquelles on porte ou ne porte pas de prothèse, elles peuvent être très diverses, tant techniques que médicales ou encore financières, puisque cet aspect-là joue également un rôle. Un membre peut être absent pour plusieurs raisons, je vous l'ai dit, une anomalie congénitale, à la suite d'un traumatisme qui peut être survenu après une pathologie, après un accident, à la suite d'un événement guerrier, donc les circonstances sont évidemment multiples. On pouvait avoir recours à l'amputation chirurgicale dans ces mêmes circonstances ou pour cause de maladie. Et un certain nombre de chercheurs se sont penchés sur l'étude des circonstances qui mènent à l'amputation et qui mènent à la perte d'un membre. Donc une chercheuse en histoire grecque qui s'appelle Martha Lynn Rose rappelle le fait que la perte d'un membre dans le corpus hippocratique n'est envisagée que de manière passive. Qu'est-ce que ça veut dire ? On attend que le membre se détache de lui-même. Et donc, dans un premier temps, dans le corpus hippocratique, l'amputation n'est pas active. On attend que le membre se détache de lui-même ou n'est enlevé que quand il est prêt à tomber. Alors, un petit extrait pour appuyer tout ça. Donc, dans le traité pronostique de la collection hippocratique, le médecin nous dit « Cependant, si les doigts des mains ou les pieds noircissent complètement, c'est moins funeste que lorsqu'ils sont livides. Mais il faut tenir compte du reste des signes. Car si le malade supporte manifestement son mal avec facilité et que quelque autre indicateur de survie se manifeste en plus de ces signes-là, il y a espoir que la maladie tourne au dépôt, de façon que l'individu en réchappe et que les parties noircies du corps se détachent. » Donc dans un premier temps, l'amputation n'est pas active, elle est plutôt passive. Un problème du corps arrive et il conduit au pourrissement et au détachement de certains membres du corps qui donc deviennent absents. Alors il est assez difficile de déterminer quand exactement l'amputation a pu passer d'un service, d'une amputation donc passive à une amputation active, et d'un service d'abord dispensé dans des échoppes de barbiers à une véritable pratique médicale. Le recours à des amputations actives, qu'elles soient anticipatrices d'un plus grand mal ou simplement curatives, sont évoqués par les auteurs anciens. Donc on a plusieurs extraits qui abordent la question. Un premier extrait donc chez Platon, où on nous dit « On dit parfois, continua-t-elle, que chercher la moitié de soi-même, c'est aimer. Et moi je dis, mon cher, qu'aimer, ce n'est chercher ni la moitié, ni le tout de soi-même, si cette moitié et ce tout ne sont pas bons, puisque les hommes consentent à se laisser couper les pieds et les mains quand ces parties d'eux-mêmes leur paraissent mauvaises. Car ce n'est pas, je pense, à ce qui lui appartient que chacun de nous s'attache, à moins qu'il ne regarde le bien comme une chose qui lui est propre et fait partie de lui-même, et le mal comme une chose étrangère. » Donc là, vous voyez que chez Platon, on a déjà la considération d'une amputation plutôt active. Donc on ne sait pas exactement quand la transition s'est faite et si évidemment les deux n'ont pas cohabité pendant un moment. Même position chez Plutarque qui nous dit « Mais direz-vous, mon père me l'a laissé, il vous a laissé la liberté et l'honneur que vous devez priser bien plus que vos domaines. Il vous a laissé des pieds et des mains, et si la gangrène s'y met, vous payez un chirurgien pour vous les faire couper. » Donc là encore, on a attestation cette fois-ci de la pratique d'une amputation active, et non seulement d'une amputation active, mais vous le voyez, de la mise en place d'un service payant, puisque Plutarque nous dit bien « vous payez un chirurgien pour vous les faire couper ». Alors dans la littérature, si on poursuit notre petit cheminement dans la littérature ancienne et qu'on passe maintenant chez un auteur latin, on a la description de l'opération de l'amputation donc, qui est donnée par un auteur latin, Cels, donc, qui a vécu au 1er siècle avant ou au 1er siècle de notre ère, qui est un encyclopédiste, peut-être médecin. En tout cas, ce qu'il nous reste de ses écrits, c'est la partie de son encyclopédie qui était consacrée à la médecine. Donc on a un traité de Cels qui s'appelle « De la médecine » et où on va donc trouver la description d'une opération d'amputation qui ne laisse cette fois-ci aucune ambiguïté sur le caractère actif qu'a pris l'opération au fil du temps. Donc Cels écrit « J'ai dit dans un autre chapitre que la gangrène s'étendait depuis les doigts ou les orteils jusqu'à l'aisselle ou à l'aine et que si elle résistait aux médicaments, il fallait amputer le membre. C'est, il est vrai, une ressource des plus périlleuses, car les malades meurent souvent de l'hémorragie ou de syncope pendant l'opération même. Mais qu'importe, ici comme ailleurs, qu'un remède soit peu sûr s'il est unique. On fait donc, avec un scalpel, une incision entre le mort et le vif, jusqu'à l'os, de façon à ne pas s'approcher de l'articulation, et même à empiéter sur les parties saines plutôt que dans l'essai de malade. Dès qu'on est arrivé sur l'os, on en éloigne la chair saine et on la détache du pourtour osseux, afin de le dénuder également en cet endroit, dans une certaine étendue. Puis, à l'aide d'une petite scie, on coupe l'os le plus près possible de la chair saine et encore adhérente. Ensuite, on polie la surface de la section osseuse, rendue inégale par l'action de la scie, et par-dessus, on ramène le tégument, qui, grâce à ce procédé, doit être assez lâche pour recouvrir très exactement l'os de toutes parts. L'endroit où la peau n'aura pas été ramenée sera recouvert de charpie par-dessus laquelle on fixera une éponge trempée dans du vinaigre. Quant au pansement ultérieur, on suivra les règles établies pour les plaies qu'on doit faire suppurer. Donc, rapporté dans la littérature, ce type d'opération, finalement, était-il réellement mis en pratique et avec quelle fréquence? C'est une des questions que l'on peut poser, puisque je n'ai pas besoin de vous rappeler que dans l'Antiquité, les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires sont extrêmement mauvaises. Il y a très peu de solutions d'anesthésie. L'asepsie est quasi inconnue. Donc, la moindre intervention chirurgicale est extrêmement dangereuse. Donc, c'est bien beau d'avoir ce genre de description, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on pouvait les mettre en pratique de manière fréquente. Ou du moins, on ne pouvait pas les mettre en pratique sans mettre la vie du patient en danger de façon extrêmement importante. Alors, c'est vrai pour des opérations très limitées, hein, et ça l'est a fortiori pour des opérations aussi graves, hein, puisque là, vous voyez bien qu'il est question quand même de couper un membre. Donc c'est quelque chose qui est quand même très, très invasif, très, très grave. Et donc, si on peut répondre grâce aux sources archéologiques qu'effectivement la chirurgie était pratiquée dans l'Antiquité, hein, je vous montre rapidement, alors je suis désolée, la photo n'est pas très très bonne, je vous montre ici un panel avec quelques instruments de chirurgie, et pas que d'ailleurs, découverts à Pompéi. Ces genres de découvertes archéologiques nous permettent de dire que la chirurgie était pratiquée. Évidemment, ça ne laisse pas présumer ni de la fréquence de réalisation d'un tel acte comme l'amputation, ni d'évaluer ses chances de réussite. Mais on a aussi des restes ostéologiques qui nous permettent de déduire, de conclure que des amputations étaient effectivement pratiquées. Alors, on va voir quelques exemples dans la suite de ce propos. Quoi qu'il en soit, toutes les sources, toutes les trousses d'instruments médicaux découvertes en contexte archéologique, alors là, je vous ai montré des exemples de Pompéi, mais on a énormément de trousses de chirurgie qui ont été retrouvées dans le monde grec et dans le monde romain. Hein, donc, Pompéi est un bon exemple, mais on a aussi un exemple très célèbre d'un instrumentarium découvert dans une domus à Rimini, hein, donc au nord de l'Italie, qui hébergeait donc un médecin qui s'adonnait probablement à la chirurgie. Donc on a bien la trace archéologique d'un matériel permettant l'amputation. Évidemment, les chances de succès devaient cependant être assez réduites, hein, encore une fois, compte tenu des conditions sanitaires de l'époque. Hein. Pas d'asepsie, quasi pas d'anesthésiant. Donc si le patient ne mourait pas pendant l'intervention pour des raisons diverses et notamment d'un choc dû à la douleur, hein, puisque sans anesthésiant, vous pouvez sans peine imaginer le choc de la douleur qui pouvait intervenir. S'il ne mourait pas pendant l'opération, il avait toutes les chances de mourir après, hein, des suites de l'opération et notamment d'une infection. Hein. Alors, on a quand même quelques découvertes ostéologiques qui nous offrent des exemples de patients qui ont survécu à une opération de ce type. Alors, je vais prendre un seul exemple. On a un cas dans une nécropole romaine, dans la nécropole romaine d'Isola Sacra, où on a les restes d'un jeune homme dont la jambe a été sectionnée juste au-dessus du genou et dont les ossements ont permis de conclure à une survie de plusieurs mois, voire de plusieurs années après l'opération. Les anthropologues qui ont examiné ces restes pensent qu'il a survécu un certain temps à l'opération. Et cet individu a été, on revient un petit peu directement à nos prothèses, hein, cet individu a été découvert dans sa tombe sans prothèse à ses côtés. Mais d'après l'anthropologue qui a étudié ses restes, l'amputation qu'il a subie donc juste au-dessus du genou ne laissait pas de possibilité d'en utiliser une. Donc c'est pas étonnant de l'avoir retrouvé ici sans prothèse. Donc voilà un petit peu les conditions qui président à la perte d'un membre. Maintenant qu'on a envisagé donc cette perte du membre, on va faire une petite typologie des différentes prothèses antiques, puisque vous allez le voir encore une fois, eh bien, on ne peut pas assimiler toutes les prothèses antiques à ce que nous on associe finalement directement aux prothèses. C'est un petit peu plus large dans l'Antiquité. Alors, les sources permettent de dresser une espèce de typologie, hein, une espèce de liste des différentes prothèses dont on peut attester l'existence dans l'Antiquité. Alors, elles sont de plusieurs types, hein, essentiellement trois types. On va avoir des prothèses dentaires, hein, qui sont destinées à remplacer évidemment des dents absentes. On va avoir des prothèses destinées à remplacer des membres qui ont été amputés. Donc ça, c'est plutôt des catégories qui nous sont familières. Et puis, les anciens assimilent aussi comme prothèses ce que nous, on assimile parfois plutôt aux postiches, ou sont les prothèses capillaires. Hein. Les cheveux ont une grande importance pour les anciens. Et les postiches capillaires, eh bien, sont inclus quand on traite des prothèses, hein, et des prothèses dans l'Antiquité. C'est le cas notamment d'un colloque qui s'est tenu à Lampeter en 2015 sur les prothèses anciennes, qui traitait notamment abondamment des postiches capillaires. Alors, ce qui est en conformité, ce qui est en conformité tout à fait avec le terme grec, hein, de prosthésis, qui désigne l'usage de cheveux postiches d'une perruque. Donc là, on revient sur notre étymologie et on est donc plus raccord avec le mot ancien. Alors, on va commencer par les prothèses dentaires. Le cas des prothèses dentaires est relativement bien documenté. Hein. On dispose pour ce type de prothèse à la fois de récits littéraires et de sources archéologiques. Alors, on a un cas ici qui est bien documenté et pourtant qui suscite un certain nombre d'interrogations, puisque les informations qui nous sont fournies par les textes et par les sources archéologiques sont parfois discordantes. Donc ça suscite quelques questions. Alors, les traités médicaux témoignent de la pratique de l'extraction des dents. Hein. Dans les traités médicaux, on voit bien que les dents étaient extraites, et quand on considère les trousses de médecins dont je vous ai parlé il y a quelques instants, on trouve tout un arsenal qui permettait d'extraire les dents. On retrouve également dans la littérature médicale l'exposé de dispositifs qui visent à consolider une série de dents branlantes, notamment par la pose d'un fil d'or. Mais il n'y est pas question de véritables prothèses dentaires. Hein. Si on considère la littérature médicale, on nous donne l'exemple suivant, hein, toujours chez Sels. Si par suite d'un coup ou d'un autre accident, les dents viennent à vaciller, on doit, à l'aide d'un fil d'or, les attacher avec celles qui tiennent bien. Bon, voilà, on a un dispositif. Si les dents viennent à vaciller, eh bien, on les attache ensemble avec un fil d'or et on les maintient un petit peu comme ça. Les écrits médicaux nous disent aussi qu'on peut extraire les dents s'il y a un problème, mais ne nous parlent pas véritablement de prothèses dentaires. Pourtant, ces prothèses, eh bien, elles sont présentes. Leur existence est attestée dans un autre type de littérature, c'est-à-dire qu'on ne les rencontre pas chez les écrits des médecins, mais dans d'autres textes qui ne relèvent pas de la littérature médicale, eh bien là, on peut en avoir l'attestation. La loi des 12 tables, par exemple, alors la loi des 12 tables, pour faire une mise au point rapide, c'est la mise par écrit de lois à Rome, donc c'est la première fois qu'on met à Rome les lois par écrit, hein, c'est une série de lois qui ont été élaborées en 451-450 avant notre ère, dans le cadre notamment de la lutte entre les patriciens, donc qui sont les descendants des premières familles de Rome, et les plébéiens. Donc toutes ces lois ont été mises par écrit en 451-450, et elles vont nous intéresser ici parce qu'elles stipulent qu'il est interdit d'inhumer ou d'opérer la crémation des défunts avec de l'or sur eux, à l'exception, nous dit le texte, alors c'est rapporté, parce qu'on n'a pas le texte original, c'est rapporté par Cicéron dans son traité des lois, à l'exception donc de celui qui a les dents reliées par de l'or. Donc là, on a bien la confirmation du procédé énoncé par Sels, hein. quand les dents sont branlantes, eh bien, on peut les relier grâce à un fil d'or. Donc ça, ça nous est rapporté par Cicéron. On retrouve l'évocation du même procédé chez Lucien, hein, donc un auteur de langue grecque du IIe siècle de notre ère. Mais là encore, il ne parle pas d'éventuels dispositifs qu'on pourrait assimiler à des bridges, hein, donc c'est-à-dire un système qui vise à remplacer des dents absentes. Hein. Là, on a des systèmes qui consolident des dents branlantes, mais des dents qui sont toujours là. Mais il n'est pas pour l'instant question de systèmes de type bridge. Alors, ces systèmes de type bridge, ils sont plutôt avérés dans la littérature satirique, on va en voir quelques exemples ensuite, et on les a aussi en contexte archéologique. Hein. Donc là, un exemple hein, d'une prothèse étrusque, où on voit donc des dents avec racines, donc des dents qui étaient en place, mais on voit des dents sans racines, donc qui était un dispositif en fait de prothèse hein, pour remplacer une dent manquante. Donc ça, c'est assez bien attesté du point de vue archéologique. Hein, on en a un certain nombre d'exemplaires. Alors bien attesté pour la période étrusque, puisque pour la période romaine. On n'en a pas beaucoup, on en a beaucoup moins. Hein. L'exemplaire le plus connu que l'on a, c'est sans doute l'exemplaire de l'époque hellénistique qui a été découvert en 1907 à Théano. Hein. Alors, cette raréfaction de la découverte de bridges entre la période étrusque et la période romaine a amené les chercheurs à se poser la question, est-ce que cette pratique étrusque ne se serait pas transmise aux Romains. Alors, c'est peu probable parce que cette pratique, elle est absente des écrits des médecins, on l'a dit, elle est peu attestée pour la période romaine dans l'archéologie, mais d'autres auteurs, hein, je vous l'ai dit, j'ai un petit peu brisé le suspense, évoquent régulièrement, et notamment dans la littérature satirique, des porteurs, et notamment des porteuses, vous allez le voir, de fausses dents, qu'il est même possible de retirer pour la nuit. Hein, à lire les auteurs satiriques, on a l'impression que certains individus pouvaient porter des espèces de dentiers. Hein, et donc vous avez des exemples, notamment chez Martial, donc qui est un auteur satirique, qui nous dit « Bien que tout en restant chez toi, tu te fasses attifer en pleine rue de Subura et qu'on te fabrique gala la chevelure qui te manque, donc là on a les cheveux également, hein, bien que chaque soir tu ôtes tes dents, tout comme ta robe de soie. » Donc là, on a un auteur qui nous rapporte eh bien, l'existence d'un dispositif qui vise à remplacer des dents absentes et qu'on peut même ôter pour la nuit. Hein. Alors évidemment, il est impossible d'évaluer la diffusion de tels dispositifs. Hein, on ne peut pas savoir à quelle fréquence eh bien, ce genre de dispositif était porté, puisque d'un point de vue archéologique, on a assez peu d'attestations. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que les maux dentaires et la chute des dents ne devaient pas être rares, hein, compte tenu des conditions d'hygiène du temps. Et à défaut de témoignages archéologiques de l'existence de ces bridges à l'époque romaine, et plus que donc ces anecdotes, on sait aussi par l'étude des restes ostéologiques que les problèmes dentaires étaient légion. Les bouches édentées retrouvées en contexte funéraire, elles sont vraiment légion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces anecdotes qui nous sont rapportées par les auteurs satiriques, hein, puisqu'il faut quand même dire deux mots du registre littéraire que l'on a ici à considérer. Alors, évidemment, on peut partir du principe que ces auteurs ne décrivaient pas nécessairement une réalité extrêmement répandue. Néanmoins, comme ces textes visent quand même à provoquer le rire, pour provoquer le rire, eh bien, il faut que l'anecdote, la satire, s'appuie sur un fond même infime de réalité pour renvoyer à quelque chose de connu du public qui va lire ces textes. Alors, voilà ce qu'on peut dire pour les prothèses dentaires. On a ici une discordance entre sources archéologiques, écrits médicaux et littérature satirique. Toutes ces sources ne nous disent pas exactement la même chose. Alors si on passe maintenant aux prothèses qui concernent l'extrémité des membres, Là encore, ce sont des dispositifs que l'on rencontre dans la littérature. La littérature, que ce soit grecque ou romaine, vous allez le voir, eh bien, atteste bien de l'existence de dispositifs qui visaient à suppléer l'absence d'un membre. Alors, dans les textes grecs, on a un premier exemple qui est le personnage d'Égésistrate, donc qu'on rencontre chez Hérodote et chez Plutarque. Donc, je vais vous lire d'abord l'extrait d'Hérodote, puis celui de Plutarque, et on va voir ce qui arrive à ce personnage d'Égésistrate. Mardonius désirait ardemment commencer la bataille, mais les sacrifices n'étaient pas favorables et ne lui promettaient des succès que dans le cas où il se tiendrait sur la défensive, car il se servait pour sacrifier à la manière des Grecs du devin Égésistrate d'Élée, le plus célèbre des Téliades. Cet Égésistrate avait fait autrefois beaucoup de mal aux Spartiates, et ceux-ci l'avaient arrêté et mis dans les fers pour le punir de mort. Comme dans cette situation fâcheuse, il s'agissait non seulement de sa vie, mais encore de souffrir avant la mort des tourments très cruels, il fit une chose au-dessus de toute expression. Il avait les pieds dans des entraves de bois garnies de fer. Un fer tranchant ayant été porté par hasard dans sa prison, il s'en saisit, et aussitôt, il imagina l'action la plus courageuse dont nous ayons jamais ouï parler, car il se coupa la partie du pied qui est avant les doigts, après avoir examiné s'il pourrait tirer des entraves le reste du pied. Cela fait, comme la prison était gardée, il fit un trou à la muraille et se sauva à Tégée, ne marchant que la nuit et se cachant pendant le jour dans les bois. Il arriva en cette ville, la troisième nuit, malgré les recherches des Lacédémodiens encore, qui furent extrêmement étonnés de son audace en voyant la moitié de son pied dans les entraves sans pouvoir le trouver. Ce fut ainsi qu'Égésistrate, après s'être alors échappé des Lacédémodiens, se sauva à Tégée, qui n'était pas en ce temps-là en bonne intelligence avec Sparte. Lorsqu'il fut guéri, il se fit faire un pied de bois et devint ennemi déclaré des Lacédémoniens. Mais la haine qu'il avait conçue contre eux ne tourna pas, du moins à la fin, à son avantage, car ayant été pris à Zacynthe, où il exerçait la divination, ils le firent mourir. Alors, même chose chez Plutarque. Donc là, pour gagner, parce que je vois que le temps tourne, pour gagner un petit peu de temps, je ne vous lis que le tout début du passage qui se rapporte à cette anecdote. Le devin d'Arcadie fut obligé de se faire fabriquer un pied en bois au rapport d'Hérodote, parce qu'il avait perdu le sien. Donc là, en fait, on a la narration de l'aventure d'un individu, Égésistrate, donc relatée par Hérodote et reprise ensuite par Plutarque. On est en pleine guerre médique, et Égésistrate a été fait prisonnier par les Spartiates et mis au fer. Et pour s'en délivrer, eh bien, vous l'avez vu, il n'hésite pas à s'automutiler en se coupant une partie du pied. Et une fois son pied amputé, eh bien, il perce le mur de sa prison et puis il s'enfuit dans une autre cité où, une fois guéri, eh bien, il adopte une prothèse puisqu'il se fait adapter un pied de bois. Donc voilà un exemple dans des textes grecs. La littérature latine n'est pas en reste. Elle contient aussi des anecdotes qui parlent de gens qui vont porter une prothèse. Pline l'Ancien, notamment, on verra cet exemple très en détail tout à l'heure. Pline l'Ancien évoque un certain Sergius, l'ancêtre de Catilina. Vous savez, Catilina, c'est cet individu qui va fomenter un coup d'État en 63 avant notre ère et contre lequel eh bien, Cicéron va s'ériger. Eh bien, son ancêtre, qui vit au moment de la Deuxième Guerre punique, donc au moment de l'affrontement entre Rome et Hannibal, donc entre 218 et 202 avant notre ère, eh bien, cet ancêtre, Sergius, va combattre dans les armées romaines et il va connaître de nombreuses blessures et notamment il va devoir être amputé de la main droite et il va la remplacer, on va le voir, par une prothèse. Donc on a un auteur latin qui nous évoque un porteur de prothèse. Martial également, notre satiriste, évoque aussi, au détour de certaines anecdotes, des porteurs de prothèses. Donc ici, il se moque de quelqu'un qui essaierait de courir avec une jambe de bois. Quand bien même tu aurais un des deux pieds de l'Hadas, espèce de niais, il ne te servirait à rien si tu courais avec une jambe de bois. Donc on voit bien au détour de ce genre de phrase eh bien, que certains individus dans l'Antiquité portaient bel et bien des prothèses. Alors prothèses plus ou moins rudimentaires, on va le voir. Ces témoignages littéraires sont une fois encore confirmés par l'archéologie. en contexte archéologique, en contexte funéraire notamment, on a mis au jour des prothèses qui visaient à suppléer la perte d'un membre. Alors, on a un exemple fameux d'une très belle prothèse, qui est une prothèse qui a été découverte en 1885, qui est une prothèse donc découverte à Capoue, dans la tombe d'un homme qui avait été amputé à Mimolet. Elle date du 4e siècle avant notre ère, donc amputation à Mimolet de la jambe droite. Alors c'est une trouvaille évidemment exceptionnelle, hein. Toutes les prothèses portées dans l'Antiquité ne se présentaient certainement pas de cette façon. Là on a vraiment une trouvaille exceptionnelle. Et la plupart des prothèses devaient sans doute être réalisées avec des matériaux périssables, hein, ce qui aussi handicape un petit peu nos découvertes, hein, puisque les prothèses faites en matériaux périssables n'ont probablement pas été retrouvées. Donc du bois, du cuir, du chanvre, du tissu, etc. On verra un autre exemple tout à l'heure. Alors évidemment, je n'ai sans doute pas besoin de vous préciser que ce genre de découverte en contexte archéologique est assez rare. C'est très très rare de découvrir des prothèses, néanmoins on en a quelques-unes et on a cet exemplaire donc, qui est tout à fait exceptionnel. Alors ici je vous précise tout de suite que c'est une photo d'une copie de la prothèse. Vous allez voir ce qui lui est arrivé à cet objet. Nous n'avons plus l'objet original, donc nous disposons maintenant de sa copie. Et ici vous avez donc la photographie de la copie en question. Alors, bien souvent, donc, quand on ne trouve pas les prothèses en contexte archéologique, comment on peut déduire qu'un individu amputé a porté ou pas une prothèse ? Alors, on peut déduire le port d'une prothèse, notamment par l'examen des os. Les anthropologues arrivent parfois à voir sur les os des traces d'usure qui dénotent le port plus ou moins habituel de prothèses. La présence de vestiges métalliques corrodés, fragmentaires ou de traînées ligneuses sur le fond des fosses sépulcrales peut être aussi un bon indice de l'existence de prothèses quand on découvre un individu qui a été amputé. Donc si je reviens à ma prothèse de Capoue, alors elle est constituée d'une base en bois, mais elle est recouverte de bronze. Et c'est sans doute ça qui a permis sa conservation. Elle a été acquise donc, par le Royal College of Surgeons de Londres et elle a suscité, par sa nature exceptionnelle évidemment, l'engouement d'un certain nombre de chercheurs, notamment des chercheurs allemands. Et cette précision, elle n'est pas anodine quand on sait ce qui est arrivé à l'original de cette prothèse. Et vous allez voir pourquoi je vous mentionne en fait que cette prothèse a suscité l'engouement des chercheurs allemands, parce qu'en fait, cet objet a été détruit dans les bombardements de Londres en 1941. Donc c'est assez ironique que les chercheurs allemands s'y soient beaucoup intéressés, puisque c'est aussi leurs bombardements qui ont finalement causé la perte de l'objet original. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une copie qui avait été faite en 1910, et dont vous avez une photographie ici. Alors cette copie, elle est conservée au Musée des sciences de South Kensington, donc à Londres. Et c'est un objet évidemment exceptionnel. Alors on peut citer un autre appareillage pour faire le pendant chronologique. Là je vous ai parlé d'un objet plutôt haut dans la chronologie, puisqu'on est au 4e siècle avant notre ère. On a aussi un exemple de prothèse du 5e, 7e siècle, la datation n'est pas assurée, des 5e, 7e siècle de notre ère, découvert en Suisse, en contexte funéraire, dans une nécropole de Bonadus. Et là, alors malheureusement, je n'ai pas de photographie. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rudimentaire, puisqu'on a finalement un sac de cuir qui était destiné à remplacer un pied manquant. Donc on a deux dispositifs ici qui balisent bien un petit peu la chronologie considérée et deux dispositifs qui sont de nature extrêmement différente, puisqu'on a d'un côté un très bel objet, très ouvragé, on va y revenir, et puis de l'autre, quelque chose qui relève plutôt du bricolage domestique. Et on va voir tout à l'heure que finalement, on a les deux possibilités hein, dans la fabrication des prothèses. Ça peut être des objets très ouvragés, comme finalement des bricolages domestiques. Alors, on va faire un petit détour quand même par le corps artificiel des dieux, hein, puisque les dieux aussi ont porté des prothèses. Alors, c'est le cas notamment du fils de Tantale, Pélops, qui a été pourvu d'une épaule en ivoire, hein, puisque son épaule à lui avait été mangée par Déméter. Hein. Tantale, donc son père, l'avait servi en ragoût aux dieux. Et puis, donc Déméter a mangé l'épaule de Pélops. Et quand les dieux se sont aperçus de ce qu'avait fait Tantale, eh bien, ils ont essayé de reconstruire un petit peu le puzzle, si je puis dire. Et il s'est avéré qu'il manquait l'épaule. Donc, on lui a mis une épaule en ivoire. Hein, c'est ce que rapporte Ovide dans ses Métamorphoses, où il nous dit, donc je passe un petit peu le début de l'extrait, on dit que Pélops, son frère, donna seul des larmes à sa mort, en déchirant ses vêtements, il découvrit son épaule d'ivoire. Donc lui, il est porteur d'une prothèse, et une prothèse en ivoire. Alors, les prothèses... Alors, je ne sais pas si ça va être très net. Les prothèses portées par les dieux ont suscité un certain nombre de débats. Alors, dans l'imagerie antique, les cas sont assez rares et sont souvent douteux. Ici, je vous ai mis le cas d'une image qui a fait débat. Hein. En 1983, Bliquet, un spécialiste qui s'est penché sur la question des prothèses, a étudié une série de représentations iconographiques où on a différentes figures mythologiques qui semblent porteurs d'une prothèse. Alors, je ne sais pas si c'est très apparent. Voilà, alors je vous décris un petit peu l'image parce que c'est pas nécessairement bien apparent à l'écran. Vous avez ici un personnage mythique, hein, une divinité, probablement Apollon, hein, puisqu'il a la lyre, donc du moins c'est un personnage qui a été identifié comme étant Apollon, qui est donc assis sur un trône et qui a manifestement une jambe avec un petit souci, hein, puisqu'on a l'impression qu'il a un pied tout à fait normal et l'autre jambe se termine de façon un petit peu bizarre par ce qui a l'air d'être une prothèse. Alors, cette image, elle a vraiment suscité de nombreux débats. Les chercheurs se sont un petit peu... Alors, j'ai une représentation, voilà, un dessin de l'image de céramique que je vous montrais il y a un instant, donc c'est plus clair sur le dessin, vous voyez comment se termine manifestement sur la céramique la jambe de cette divinité. On a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une prothèse. En réalité, donc ça a fait énormément de débats entre les différents chercheurs, et en réalité, on pense finalement que c'est un défaut de poinçon qui a conduit à cette représentation de la divinité avec une jambe abîmée, mais qu'il n'y avait pas de problème finalement physique chez cette divinité. Alors, dernière image que je souhaite vous montrer, c'est celle qui figure sur un skiphos italiote du IVe siècle avant notre ère, qui représente un satyre dont la jambe repose sur un bâton et il a un pied donc sur un capuchon ou un sabot. Enfin, bon, voilà, il y a une jambe qui ne nous pose pas trop problème, c'est probablement un sabot, mais il a une autre jambe qui pose un petit peu plus souci. Alors, on voit que le satyre n'est pas amputé, hein, puisqu'on aperçoit clairement son membre replié. Hein. Je ne sais pas si j'ai la souris. Non, je n'ai pas la souris. Néanmoins, il se sert de son bâton comme d'une jambe de bois. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour les divinités. Hein. Les divinités ne sont pas épargnées par les atteintes physiques et peuvent être... Alors j'avais bien fait mon PowerPoint, je vous avais entouré les petites choses à repérer. Donc les divinités, elles aussi, héros, personnages un petit peu mythiques, eh bien, peuvent aussi être touchées par des problèmes corporels et notamment usées de prothèses. Alors si on revient un petit peu à la réalité concrète, on va voir que porter une prothèse, eh bien, c'est un acte entre restauration de l'intégrité corporelle, soins et puis esthétique, hein, puisque la dimension esthétique n'est pas à négliger. Alors on va se pencher d'abord sur les raisons du port de la prothèse. La question, elle peut paraître de prime abord assez naïve, hein. Si je vous dis pourquoi porter une prothèse, vous allez me dire elle est complètement folle, les raisons sont complètement évidentes. Tout de même, elle mérite d'être posée cette question, car l'utilité de la prothèse va recouvrir plusieurs domaines. Le fonctionnel, bien évidemment, mais aussi, vous allez le voir, l'esthétique, et l'esthétique n'est pas à négliger dans les sociétés anciennes. Alors, on ne va pas seulement se contenter de restaurer une partie de la mobilité ou de la dextérité perdue. Hein. On veut aussi véritablement recouvrer une apparence plus en conformité avec la norme corporelle en vigueur dans ces sociétés. C'est vraiment un enjeu aussi de l'emploi de ces appareillages. Alors, un petit texte pour vraiment vous montrer quelles étaient les perceptions anciennes sur la question, qui ne parle pas directement d'amputation et du port de prothèse, mais qui parle de soucis corporels en règle générale. Mais ça va bien vous montrer dans quel état d'esprit on se situe. Donc, pour commencer par le corps, s'il y arrive qu'il y ait dans les membres des difformités, des faiblesses, des mutilations, remarquez-vous comme les gens les cachent. Quels efforts encore ils font et quelles peines ils se donnent pour obtenir, s'il y a moyen, que leur infirmité physique ou ne se voit pas, ou se voit le moins possible. Que de traitements douloureux aussi ils supportent patiemment, avec l'idée que même si pour l'usage des mouvements, ils doivent non seulement n'y rien gagner, mais même y perdre, néanmoins les membres contrefaits auront repris leur apparence naturelle. Donc vous voyez ici que, finalement, l'emploi de prothèse, bien sûr, ça vise à restaurer une fonction, mais ça vise aussi à restaurer un corps pour qu'il soit en plus grande conformité avec la norme esthétique en vigueur dans ces sociétés. Alors, ces considérations sur la fonction esthétique, elles sont valables pour tous les types de prothèses. Pour les prothèses dentaires, on va le voir dans un instant, mais aussi pour les prothèses capillaires. Et c'est là où je vais m'étendre un petit peu plus longuement sur ces prothèses capillaires, sur ces postiches. Alors, je ne vais pas vous lire ce texte parce que je vois que le temps file à toute allure et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut savoir sur la perte des cheveux, c'est que c'est vraiment une obsession chez les anciens. Il n'y a pas que dans nos sociétés où la perte des cheveux traumatise un certain nombre d'hommes. Non, chez les anciens déjà, c'est un véritable problème. Et si on prend les écrits médicaux, si on prend la littérature encyclopédique, et là je vous ai mis un extrait de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, si on prend vraiment toute cette littérature latine, on voit que les remèdes qui sont proposés pour empêcher la chute des cheveux ou remédier à la chute des cheveux ou encourager la pousse du cheveu ou avoir de beaux cheveux, sont légion. Hein. Tous les moyens sont bons pour avoir de beaux cheveux, pour retrouver des cheveux. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est anecdotique. C'est vraiment très présent dans la littérature. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les sanctuaires avec les dépôts d'ex voto. Donc les ex voto, ce sont ces objets qui étaient déposés pour les dieux, donc soit pour demander une grâce, soit pour remercier d'une grâce accordée. Et vous voyez ici qu'on a des ex voto qui font directement référence aux cheveux, voire à des problèmes de cheveux, hein, puisque la tête qui est ici semble manifestement avoir un petit problème avec ses cheveux. Alors, la deuxième image représente manifestement un scalp, hein, des cheveux. Là, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Hein. Peut-être qu'on déposait ces ex-voto pour requérir une grâce en rapport avec la sphère capillaire, ou peut-être que c'était aussi, ça c'est Jane Draycott qui formule cette hypothèse, que ce genre d'ex-voto en céramique pouvait être aussi un substitut pour des individus qui ne pouvaient pas offrir leurs cheveux aux dieux. Hein. Vous savez peut-être que dans les sacrifices, il n'était pas rare d'offrir des cheveux aux dieux. Hein. C'est d'ailleurs tout l'objet dans la tradition de cet échange entre le roi légendaire de Rome, Numa Pompilius, et Jupiter. Hein, quand Numa, sur les conseils d'Égérie, négocie un petit peu avec Jupiter comment vont s'installer les modalités du sacrifice et donc du dialogue entre les dieux et les hommes. Jupiter veut une tête d'homme, donc Numa négocie un petit peu, lui dit « bon, d'accord, une tête d'oignon ». Jupiter lui dit « non, je veux de l'humain ». « Bon, bah des cheveux alors ». Et donc, c'est instauré ici l'habitude de sacrifier aussi des cheveux parfois aux divinités. Donc ici, on a un exoto qui peut avoir à la fois pour but de se substituer à l'offrande divine de quelqu'un qui ne pourrait pas offrir ses cheveux, ou bien peut-être symboliser un vœu en rapport avec la sphère capillaire. Quoi qu'il en soit, ça vous montre bien l'importance du cheveu dans l'Antiquité et donc l'importance de cette question des postiches. Alors ces postiches capillaires, ils sont évoqués par Pétrone dans le Satyricon qui nous dit « Il allait continuer, semble-t-il, et dire les plus grosses sottises encore quand une servante de Tryphène, entraînant Giton à l'intérieur du navire, couvre sa tête nue d'une perruque de sa maîtresse. Puis, tirant d'une boîte une paire de sourcils, elle les colle si habilement aux endroits rasés que mon jeune ami recouvre du coup toute sa beauté. Tryphène retrouvait son Giton, émue jusqu'aux larmes, elle l'embrasse de nouveau, et cette fois de tout cœur. Je n'étais pas moins enchantée de voir le visage de l'enfant restitué dans son ancien éclat. Cependant, je me cachais le plus possible le visage. Je comprenais que la marque d'infamie traditionnelle ne me mettait pas dans un beau jour, puisque Lycas lui-même dédaignait de m'adresser la parole. Mais cette même servante vint au secours de ma détresse. Elle me tira à part et me para d'une perruque non moins belle. Mon visage y gagna même un éclat plus piquant, car la perruque était blonde. » Alors ici, il faut une petite remise en contexte. Giton et Encolpe sont sur un navire et ils sont en présence de personnes qu'ils ne veulent pas rencontrer, ils ne veulent pas être reconnus de ces personnes. Donc pour échapper à ces personnes, un de leurs amis lui dit « mon serviteur est barbier, c'est très simple, il va vous raser la tête et il va vous raser les sourcils et puis il va artistiquement peindre sur vos fronts la marque d'infamie ». En fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les esclaves qui étaient fuyards se voyaient traditionnellement, possiblement, raser la tête, raser les sourcils et puis inscrire, tatouer sur le front une marque qui désignaient leur état de tendance à la fuite. Donc pour ne pas rencontrer ces personnes, leur ami les fait passer donc pour des esclaves en fuite, puisque la marque, que ce soit le fait de raser les cheveux, raser les sourcils, ou la marque, le tatouage, avait pour réputation de faire perdre son statut à l'individu touché. C'était une marque d'infamie qui lui faisait perdre son identité. Bon, pas de chance, ici ils sont reconnus, donc après avoir été reconnus, Tryphène notamment fait déposer une perruque sur la tête de chacun, et on voit bien que le fait de mettre des sourcils postiches, de mettre une perruque, leur restitue leur beauté. Donc on voit bien ici l'importance de ces postiches capillaires. De la même façon, on a l'exemple ici, donc je ne vous lis pas le texte, mais d'un empereur, empereur bien éphémère, mais empereur quand même, Othon, qui était chauve et pour masquer ce défaut, portait une perruque. Donc on a vraiment une importance et un emploi réel des postiches. Cet emploi, on le retrouve aussi donc pour les prothèses dentaires, qui peuvent revêtir à la fois une fonction esthétique, mais aussi véritablement une fonction fonctionnelle cette fois-ci. Alors, la majorité des prothèses dentaires que l'on a retrouvées sont des prothèses d'incisives et de canines. Donc on pense que c'était des dispositifs plutôt pour restituer un caractère esthétique. Néanmoins, les textes et certaines sources archéologiques nous permettent d'attester aussi l'existence de prothèses visant à remplacer, même si elles sont moins courantes, des molaires. Et on sait que les dents, donc ça permettait de restituer non seulement des capacités de mastication, mais on sait aussi que les dents ont un rôle essentiel à jouer dans la formation de certains sons. Donc ça pouvait aussi aider à pallier des soucis de prononciation qui étaient causés tout simplement par l'absence de certaines dents. Donc là encore, on a une double fonction esthétique et aussi une fonction fonctionnelle, hein, restaurer les possibilités de mastication, restaurer aussi certaines possibilités de prononciation. Même fonction également chez les prothèses des extrémités des membres, qui ont sans doute également une double finalité. Si on reprend notre prothèse de capouf, prothèse fonctionnelle évidente, hein, on essayait de restaurer un minimum de mobilité, mais aussi fonction esthétique, puisque ça n'est pas nécessairement très très visible sur la photographie, mais cette prothèse, elle avait l'aspect de cnémide grec. Donc les cnémides grecs, ce sont ces espèces de protèges tibiens, hein, qui étaient portées par les soldats pour se protéger, et cette prothèse, donc je rappelle que Capoue est une colonie grecque, hein, d'Italie du Sud, on est ici au IVe siècle avant notre ère, cette prothèse fait penser vraiment à d'aspect au cnémide grec, et donc on peut penser qu'elle avait aussi un critère, une fonctionnalité esthétique, hein, puisque la personne qui portait cette prothèse, à une certaine distance, pouvait avoir l'air de porter en vérité des cnémides et de ne pas être amputée. Bon, évidemment, ça a ses limites. Hein. Alors, autre exemple d'une prothèse qui peut avoir donc une véritable fonction de restauration fonctionnelle, c'est la prothèse de ce Sergius. Ce Sergius, je vous en ai parlé il y a quelques instants, c'est cet ancêtre de Catilina qui a combattu donc pendant la Deuxième Guerre punique et qui a été représenté donc quelques décennies plus tard par l'un de ses descendants sur une pièce de monnaie. Et on le voit ici, donc avec à la fois son épée à la main et puis son bouclier. Et ce qu'il y a en dessous de l'épée, c'est une tête de Gaulois. Hein. Donc il se promène avec une tête d'un ennemi tranché, avec son épée et puis son bouclier. Alors ce qui est remarquable sur cette monnaie, parce qu'il n'y a pas de prothèse ici, hein, donc ne cherchez pas la prothèse, il n'y en a pas. Ce qui est remarquable sur cette monnaie, c'est que ici, le personnage représenté tient son épée et la tête du Gaulois de la main gauche et son bouclier de la main droite, ce qui n'est pas habituel sur les représentations. Donc on pense ici qu'il est représenté avec sa prothèse qui est invisible, hein, qui est cachée par son corps, mais que sa prothèse l'aidait à fixer son bouclier et éventuellement les rênes de son cheval, hein, puisque cet individu est censé avoir continué à combattre en dépit de son handicap et en dépit de sa prothèse. Alors évidemment, les dispositifs que je vous présente, même s'ils pouvaient avoir une fonctionnalité certaine, cette fonctionnalité devait quand même être d'une efficacité relativement limitée. Hein. Alors, l'exemple de Sergius qui continue à combattre avec sa prothèse semble quand même relever de l'exception, hein, sans que l'on puisse évidemment déterminer le degré d'historicité de cette anecdote. On peut penser que la prothèse antique comme moyen systématique de réintégrer la vie militaire après une amputation, ainsi que le semble faire Sergius, était quand même plutôt limitée. Hein. Des soldats aussi gravement blessés devaient sans doute être réformés, même en cas de rétablissement, hein, puisque la mobilité, évidemment, n'était pas totalement restaurée. Et même en portant une jambe telle que la prothèse de Capouf, il était bien évidemment impensable de pouvoir s'adonner aux longues marches qui étaient celles des soldats. Et donc, si ça pouvait permettre de se déplacer un petit peu, ça ne pouvait pas permettre de longues marches. Hein. Et donc, la restauration de la fonctionnalité n'était vraiment que limitée. Hein. Les déplacements restaient quand même très, très limités. On a l'exemple donc de Martial qui se moquait de quelqu'un qui pouvait essayer de courir sur une jambe de bois. Lucien évoque également le cas d'un amputé des deux pieds à qui ses prothèses ne suffisent pas pour marcher. Hein. Je vous lis rapidement l'extrait. il n'y a pas longtemps qu'il existait en Asie un homme riche qui avait eu les deux pieds coupés par un funeste accident. Ils avaient été, je pense, gelés dans un voyage où cet homme s'était trouvé dans la nécessité de traverser des neiges. Sa condition était déplorable. Pour remédier à son infortune, il s'était fait faire des pieds de bois qu'il s'ajoutait et à l'aide desquels il marchait, appuyé sur ses esclaves. Cet homme avait une singulière manie, c'était d'acheter continuellement des chaussures neuves et magnifiques. Il y mettait la plus grande recherche et voulait toujours voir parer de brodequins élégants les morceaux de bois qu'il appelait ses pieds. Donc là, il est obligé de s'appuyer sur ses esclaves pour marcher. On voit ici que finalement, la mobilité restaurée, elle n'est que très limitée. Et on note ici encore la volonté esthétique, puisqu'il met de jolies chaussures à ses pieds. Donc voilà. Une efficacité qui est quand même limitée. Alors, si on se penche maintenant sur la question de la fabrication, qui fabriquait ces objets, en quoi étaient-ils fabriqués ? L'appareillage prosthétique est le grand absent, je vous l'ai dit, des traités médicaux. Les médecins n'en parlent pas. On n'a quasi pas d'occurrence de dispositifs de prothèses chez les médecins. À ma connaissance, pas de traces chez Hippocrate, pas de traces chez Cels, pas de traces chez Galien, pas de traces chez Oribase. Tous ces médecins n'en parlent pas ou n'en parlent peu. La question, finalement, ne semble pas vraiment les avoir concernés. Et l'hypothèse la plus probable, eh bien, c'est tout simplement qu'ils ne fabriquaient pas ces objets et que les prothèses antiques, eh bien, ne sont pas des dispositifs médicaux. Tout simplement. La jambe de Capoue, si on revient encore une fois à elle, elle est finement ouvragée, elle se compose donc d'une matrice de bois, je voulais dire, recouverte de bronze. Et il semble que les deux extrémités de l'objet aient été creusées pour, en haut, à pouvoir accueillir un petit coussin pour que le membre amputé ne soit pas trop mal mis. Et en bas, le membre a été creusé également, on le voit un petit peu sur la deuxième représentation, parce qu'on pense que la jambe pouvait accueillir un pied de bois, donc qui complétait le dispositif. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage, très finement ouvragé. Et Capoue étant à cette époque une cité bronzière, c'est vraiment un centre très réputé pour ses bronziers, on pense finalement que c'est l'ouvrage d'un artisan. Et donc là, on a un objet qui aurait été réalisé par un artisan. Alors, je vais reparler un petit peu de la prothèse suisse, donc du 5e, 7e siècle de Bonadus en Suisse, dont je n'ai malheureusement pas de photos à vous montrer. Elle, c'est tout l'inverse. C'est un bricolage finalement assez rudimentaire, probablement un bricolage domestique, familial, puisque c'est un simple sac de cuir renforcé par un disque de bois, des clous, du rembourrage, et qui remplaçait le pied manquant d'un squelette. Donc vous voyez que les matériaux utilisés dans la confection des prothèses ont pu être très divers, souvent périssables, du bois, du cuir, du tissu, donc des choses périssables qui ne nous sont pas nécessairement parvenues. Si on se fie aux sources littéraires, on peut aussi allonger la liste des matériaux qui sont employés. Martial, quand il évoque le cas des dents, dit qu'elles peuvent être en os ou en ivoire. D'autres disent qu'elles peuvent être en bois. D'accord, donc je vais résumer le reste très vite. Voilà. Donc des matériaux extrêmement divers. Et pour finir, donc je vais vous parler, donc je vais sauter peut-être le problème des sources. Si vous avez des questions sur les sources, on y reviendra dans la discussion. Je vais vous parler donc pour terminer du regard de l'autre. Le regard des anciens sur le handicap, sur l'atteinte corporelle en général, n'est pas un regard extrêmement tendre. Et on a de nombreux textes qui associent la prothèse au rire, puisque le handicap était régulièrement moqué dans les textes. Ça peut vraiment être un outil sur la scène politique pour attaquer un adversaire politique. Alors, on a taxé les anciens de cruauté, c'est peut-être pas à taxer aussi violemment, simplement le corps est un outil pour dévaloriser l'adversaire au même titre qu'autre chose. Donc c'est pas spécialement une preuve de cruauté des anciens que de moquer les handicapés, que de moquer les porteurs de prothèses. Simplement, ça pouvait être sur la scène politique un outil comme un autre pour dévaluer un adversaire. Alors c'est aussi quelque chose qui est très très présent dans la littérature satirique, notamment pour décrier les femmes. Les femmes sont aussi très très moquées, notamment les prostituées, dont l'apparence finalement est le gagne-pain, eh bien, sont très moquées pour leurs prothèses, notamment les prothèses capillaires, les prothèses dentaires. Des gens comme Horace, Martial se moquent vraiment beaucoup des femmes dans ce cadre. Et donc, je termine sur notre Sergius, pour lequel j'ai à peu près déjà tout dit. Je vous avais mis simplement le texte pour terminer, où on voit qu'effectivement, il a une main droite en fer, sans que l'on puisse déterminer si c'était vraiment un appareillage finalement performant, en faisant de lui un homme augmenté, ou si c'était un simple crochet qui lui permettait finalement d'accrocher les rênes de son cheval et puis d'accrocher son bouclier. Donc je m'excuse pour avoir abusé de mon temps, je vous remercie pour votre attention, et pour aller plus loin, deux ouvrages publiés aux presses universitaires de Rennes. Je vous remercie beaucoup.
Bien, merci, merci beaucoup, et désolée, je préfère laisser un temps justement pour les questions, si jamais, à vous. Des remarques.
Merci Caroline. Deux questions, une sur la prothèse de Capoue. Alors évidemment, on l'a plus, tu l'as dit. On est sûr que c'est une prothèse ? Ça ressemble quand même furieusement à un bas de jambe de statue avec de la tôle fine. Et tu parles de bois, mais à Capoue, je ne pense pas que le bois ait survécu. Donc,
Alors, elle a été trouvée en contexte funéraire,
bien sûr,
associée avec l'individu. Donc,
D'accord, il y avait les restes ostéologiques, ouais, et en même temps le... D'accord, ouais. Ok. Ouais. Et l'autre question, est-ce qu'une fois qu'on a fait le bilan de toutes les sources narratives qui parlent des porteurs de prothèses, est-ce qu'on peut en avoir une approche sociale, puisqu'on a les deux extrêmes, tu nous as montré les deux extrêmes, d'un côté Sergius, de l'autre côté les prostituées, et entre les deux, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une approche un peu fine ou pas? Entre les deux, il y a le vestige éventuellement du jeune homme de l'Isola Sacra, où Isola Sacra, on est dans le deuxième, troisième après, c'est les couches médianes, c'est les marchands, mais bon, il y a un peu de tout évidemment à l'Isola Sacra, mais... Peut-être c'est ce qu'il y a de plus intermédiaire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une approche nuancée sur justement qui porte des prothèses? Tu as évoqué des raisons financières, évidemment. Est-ce qu'on peut aller plus loin, ou est-ce que les sources, le problème des sources, mais parce que ouais. Martial, on ne peut rien en faire, c'est toujours la même chose. Martial, on rigole avec Martial, mais on ne peut rien en faire.
Non, clairement.
Même le morceau que tu utilises au tout début, avec l'histoire de la jambe de bois, et puis au contraire de l'autre côté... En fait, c'est un épigramme qui est adressé à un plagiaire, et donc il est question de pourquoi est-ce que je mêle mes vers au tien, et donc c'est même pas une approche directe d'un cas,
c'est de l'illustration, c'est de la... du fragment au détour d'une phrase, et ça ne traite pas réellement...
Et un usage poétique, c'est très difficile.
Du porteur de prothèse, non, c'est vraiment du détour de phrase, il parle évidemment pas du porteur de prothèse véritablement, non, complètement pas. Non, j'ai zappé cette partie sur les problèmes qui sont posés par les sources. Ils sont énormes. On ne peut pas avoir cet échelon intermédiaire qu'on aimerait bien avoir. On ne l'a absolument pas. On a d'un côté, c'est très tranché, on a d'un côté Martial, Horace, tous ces auteurs satiriques qui se moquent des femmes, des prostituées, voilà, en évoquant les prothèses. Et puis, de l'autre, on a Sergius, mais quelle est la valeur historique de cette anecdote? Non, on n'a rien entre les deux. Entre les deux, on a Isola Sacra, mais il ne pouvait pas porter de prothèse, donc on n'a rien. Non, là, le problème de source, il est vraiment très, très important. Ouais.
Merci.
Euh, Merci Caroline du coup pour l'intervention. Et je me posais la question de l'aide, l'entraide familiale. Est-ce que du coup, les sources permettent de signaler justement cette solidarité entre voisins, famille?
Alors c'était probablement, là encore on a un gros problème de sources, hein, donc on marche vraiment sur des œufs. C'était probablement l'un des ressorts principaux de tout simplement pour survivre, hein, pour ces individus. Alors, je n'ai pas d'exemple de porteurs de prothèses où on aurait des signes d'entraide. En revanche, j'ai des personnes souvent souffrant d'autres problèmes corporels qui, à un moment donné, alors si je reste dans les sources archéologiques, hein, qui, à un moment donné, ont pu bénéficier d'entraide, alors plus ou moins continue ou de façon très ponctuelle de la communauté. On a un exemple à Herculanum, dans les corps qui ont été retrouvés sur la plage d'Herculanum, pardon. On a l'exemple d'une femme d'âge moyen, voire relativement avancée, qui, après études ostéologiques, ne pouvait pas utiliser ses jambes. Cette femme, elle était dans une incapacité totale de marcher. Or, elle a été retrouvée sur la plage avec les autres individus qui ont cherché à fuir, donc plutôt éloignée du centre de la cité et surtout en bas des marches. Donc là, bon, c'est un exemple très ponctuel, hein. Il n'est pas question de dire qu'elle était aidée au quotidien. Mais dans la fuite, au moment de la fuite, il y a quelqu'un qui l'a emmenée avec lui. Voilà, c'est un exemple extrêmement ponctuel qui ne présume absolument pas de ses conditions de vie au quotidien, évidemment. Deuxième exemple, là encore ponctuel, mais qui atteste d'une aide peut-être plus diffuse dans le temps, c'est l'exemple d'un jeune individu, donc homme, retrouvé dans la nécropole de Castel Malnommé, qui, lui, souffrait d'une pathologie invalidante au niveau des mâchoires. Il a eu un problème au niveau des mâchoires. Ses mâchoires sont restées complètement soudées. Et on lui a retiré des dents pour permettre de l'alimenter. Hein. Et il a souffert d'autres troubles. Hein. Il a eu un certain nombre de fractures. Et là, l'étude anthropologique montre qu'il a pu bénéficier du temps de repos nécessaire à la consolidation de ses blessures, alors qu'il avait aussi par ailleurs les traces d'un travail très actif. Donc là, manifestement, il a pu bénéficier d'une aide ponctuelle le temps où il était blessé, de pouvoir se remettre. C'est du moins les conclusions qui sont tirées par les anthropologues qui ont étudié ses restes.
Et du coup, je me demandais aussi, Catherine Barouin parle souvent de, enfin, a travaillé sur la blessure et sa valorisation ou sa non-valorisation. Et est-ce qu'en fonction des contextes d'amputation, est-ce qu'une fois suite à un champ de bataille ou à une infection bénigne, est-ce que justement derrière il y a un apport positif ou négatif selon le contexte en fait
Alors, on a dans les sources, on a la théorie. La pratique, j'avais prévu un petit texte, je ne sais pas où il est passé. Je crois que c'est celui-ci. Oui. On a là donc une anecdote qui est rapportée dans un tout autre contexte. Hein. Là, encore une fois, finalement, c'est pas de l'infirmité dont il est question, mais c'est quelque chose qui est devenu un véritable topos littéraire. Hein. On retrouve ça pour d'autres personnages chez Plutarque, chez d'autres auteurs. C'est le boiteux suite à une blessure guerrière qui revient. Dans la théorie, cette blessure guerrière, eh bien, elle est obtenue au service de la patrie, elle doit être valorisée, reconnue. Et d'après les textes, eh bien, dans la pratique, ces individus n'osent pas se montrer en public parce qu'ils ont peur des moqueries, des colibés. Donc ça, c'est encore une anecdote qu'il faut prendre. On a vraiment un problème de source, mais voilà, sur toute la ligne. Hein. C'est encore une anecdote qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, parce que c'est vraiment devenu un topos littéraire qu'on retrouve partout. Là, Cicéron parle de Carvilius, mais Plutarque l'utilise dans plusieurs de ses traités pour parler du père d'Alexandre le Grand, pour parler des blessés spartiates qui reviennent de la guerre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Dans la théorie, les blessures guerrières sont censées être valorisé dans la pratique. On sait que les individus souffrant d'un problème corporel étaient régulièrement moqués, et il n'est pas sûr que le fait d'avoir eu une blessure à la guerre, même si c'était dans un contexte valeureux, ait été fortement valorisé. Là, on a un problème de source qui fait qu'on peut émettre beaucoup d'hypothèses, mais c'est difficile de trancher, très difficile.
Bien, merci également pour votre conférence. Je voudrais savoir, parce que vous nous avez montré des outils de chirurgie, déjà c'est surprenant parce que c'est quand même assez avancé, on s'attendait juste à des couteaux, enfin moi personnellement je m'attendais juste à des couteaux ou des jolies choses qui ressemblaient à des scalpels, et justement ça a poussé ma curiosité. Est-ce que les anciens avaient l'équivalent d'une chirurgie palliative pour les yeux ? Par exemple, lorsque il y avait un œil qui était crevé, est-ce qu'ils étaient capables de le retirer et de mettre un substitut bon, je n'irais pas jusqu'à un œil de verre, mais enfin, quelque chose au moins. Ou ils se contentaient de cacher le...
Alors, l'œil de verre, j'irai pas jusque-là, parce que je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas d'attestation. On n'a pas... Non. Par contre, alors... J'ai pas, là tout de suite, honnêtement, je n'ai pas d'exemple de retrait d'œil crevé, de... En revanche, une chirurgie pour les yeux, oui, clairement. Hein. Ils opéraient de la cataracte, alors, voilà, hein, avec les résultats qu'on peut imaginer. Mais on a, pour la cataracte, on a non seulement dans les textes médicaux la description de l'opération, mais dans les trousses médicales, on a des aiguilles dites à cataracte et de plusieurs types. On a des aiguilles donc, pleines qui sont simplement des aiguilles, et on a retrouvé donc en Gaule une trousse avec des aiguilles dites creuses. Alors là encore, c'est très difficile de vous dire à quelle fréquence était pratiquée l'opération, les chances de réussite, enfin voilà. Mais on a une trousse avec des aiguilles dites creuses qui, suppose-t-on, pouvait permettre l'aspiration de la cataracte. Et on a un texte de Pline qui nous dit que les escrocs abaissent la cataracte, et puis bah, les gens qui ne sont pas des escrocs, eh bien, retirent, aspirent. Donc voilà, on a ce genre de considérations qui nous permettent de dire qu'il y avait une certaine connaissance en la matière. Maintenant, présumer des chances de réussite, voilà, on est toujours sur les mêmes problèmes.
Ben, j'en profite d'avoir encore le micro pour poser une question. J'espère que je ne laisse personne. C'était à propos des... Enfin, vous avez montré des ex-voto. Et dans l'Antiquité, il me semble que les statues des dieux étaient considérées comme vivantes. Et je voulais savoir si, par malheur, on avait un prêtre ou pas très adroit qui malheureusement cassait la statue ou lors de pillage ou parce que la statue est vieille et qu'elle est usée, si on pouvait remplacer une partie, faire une sorte de prothèse à l'idole et considérer que c'était vraiment une partie du corps. Est-ce que c'est totalement impossible ? Est-ce que ça a existé ou...
Alors là, très honnêtement, je n'ai pas d'attestation. Je me tourne vers mes collègues hein, pour chercher de l'aide. Ouais, mais... Ouais. Non. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple. Effectivement, on a des statues réparées, mais pas de prothèse pour la statue. Là, non. Honnêtement, j'ai pas. Voilà. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non. Non. Voilà, c'est une piste à creuser. Là, je peux pas vous répondre du tout, du tout, du tout.
Bon, si jamais le sujet éclairant, on refera une conférence sur les prothèses des dieux. S'il n'y a plus de questions ou remarques, merci beaucoup pour votre intervention.
Merci à vous de m'avoir écouté. Merci de m'avoir invité.
Merci.